Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du Monde aujourd'hui du 8 décembre 2020. Eric Manelakis en votre compagnie. D'abord le sommaire. En RDC, la police s'est déployée à l'intérieur du Parlement à Kinshasa après deux nouvelles violences entre des partisans de Félix Tshisekedi et ceux de Joseph Kabila. Au Sénégal, trois pères ont été condamnés pour avoir fait embarquer leurs enfants dans des pirogues pour aller clandestinement vers l'Europe. Le Royaume-Uni a lancé sa campagne de vaccination contre le Covid-19, la première dans un pays occidental. Le président élu des États-Unis, Joe Biden, a choisi l'ancien général Lloyd Austin pour diriger le ministère de la Défense. S'il est confirmé, il sera le premier Africain-Américain chef du Pentagone. Dans 10 minutes, l'économie et les sports, juste après le journal. Le Ghana attend dans le calme les résultats de la présidentielle. Le scrutin s'annonce serré entre le président Nana Akufo-Addo, 76 ans, candidat pour le nouveau parti patriotique qui brigue un second mandat, et son prédécesseur John Mahama, 62 ans, leader de l'opposition du Congrès national démocratique. Environ 2,5 millions de Libériens se sont rendus aux urnes aujourd'hui. Ils sont appelés à approuver ou non, oui, amendement à la Constitution proposé par le président George Weah de réduire notamment la durée du mandat présidentiel de 6 à 5 ans et d'autoriser la double nationalité. Le mandat des députés passerait également de 6 à 5 ans, celui des sénateurs de 9 à 7 ans. Le référendum est couplé avec des élections pour renouveler la moitié des 30 sièges de sénateurs. La police congolaise s'est déployée mardi matin à l'intérieur du siège du Parlement à Kinshasa après de nouvelles violences dans l'enceinte du bâtiment. Au moins une personne a été blessée. Des précisions avec Abdelrahman Dia.
Le Palais du Peuple a été pour la deuxième journée consécutive le théâtre de nouveaux affrontements entre les partisans du président Félix Tshisekedi et ceux de la majorité parlementaire fidèle à son prédécesseur Joseph Kabila. À l'extérieur, la police a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser d'autres partisans du président Tshisekedi qui voulaient entrer également dans l'enceinte du Parlement. Hier, des députés pro-Tshisekedi avaient saccagé des pupitres à la tribune de la salle des séances pour empêcher la tenue d'une plénière. Cette montée de tension intervient au lendemain d'un discours du président Tshisekedi qui a annoncé la fin de la coalition qu'il formait depuis janvier 2019 avec la majorité parlementaire pro-Kabila. Le chef de l'État a demandé la recherche d'une nouvelle majorité à l'Assemblée, faute de quoi il dissoudrait la Chambre basse. Il a annoncé la prochaine nomination d'une personnalité pour identifier cette nouvelle majorité. Le FCC a dénoncé une violation de la Constitution.
Les élections régionales de dimanche au Cameroun se sont déroulées dans le calme, malgré les menaces des groupes séparatistes et l'assassinat d'un conseiller municipal en zone anglophone, a assuré aujourd'hui le gouvernement. La victime appartenant au RDPC, parti du président Paul Biya, ces conseils régionaux oubliés depuis 1996 ont été remis au goût du jour lors d'un grand dialogue national convoqué en 2019 par Paul Biya pour mettre fin au conflit en zone anglophone. Un tribunal sénégalais a condamné aujourd'hui à 2 ans de prison, dont un mois ferme, trois pères de famille qui avaient fait embarquer leur fils dans une pirogue en partance pour l'Europe, dont l'un est mort en mer. Le point avec Michel Joseph.
Maître Hassan Dioma Ndiaye, avocat de l'État, dit qu'ils ont été condamnés pour mise en danger de la vie d'autrui par le tribunal de grande instance de Mbour, un important port de pêche au sud-est de Dakar. Les trois prévenus sont tous des pêcheurs. Ils étaient incarcérés depuis leur arrestation début novembre. La mort de l'un des adolescents avait suscité beaucoup d'émoi dans le pays et sa photo a été largement partagée sur les réseaux sociaux. Le jeune homme d'une quinzaine d'années avait embarqué à la mi-octobre dans une pirogue. Son père avait payé 250 000 francs CFA à un passeur qui devait l'emmener clandestinement en Espagne. Sa destination finale devait être l'Italie, mais il a succombé pendant la traversée. Les enfants des deux autres pères ont survécu. L'émigration clandestine et les pertes humaines qu'elle cause suscitent toujours une vive émotion au Sénégal.
Les autorités éthiopiennes ont admis que des forces pro-gouvernementales avaient ouvert le feu dimanche sur une équipe de l'ONU au Tigré. Addis Abeba, qui a annoncé le 28 novembre la prise de la capitale régionale Mekele, a réaffirmé hier que la phase active de l'opération militaire lancée par le Premier ministre Abiy Ahmed est terminée. La crise humanitaire dans la région éthiopienne du Tigré, où la situation sécuritaire empêche de venir au secours des populations, est de plus en plus critique, a averti aujourd'hui le porte-parole du HCR, Babar Balok. Il a souligné que l'organisation n'avait eu accès aux quelque 96 000 réfugiés érythréens installés au Tigré. Des combattants djihadistes ont attaqué hier soir un village du nord du Mozambique à proximité d'installations gazières. Les violences se sont prolongées pendant la nuit, les djihadistes mettant le feu à des dizaines de maisons. Le Nigeria a exprimé aujourd'hui son désaccord cordial avec Washington, qui vient de l'ajouter à sa liste noire des pays particulièrement préoccupants en matière de liberté religieuse. Le Nigeria s'ajoute aux pays qui y figuraient déjà en 2019, Arabie Saoudite, Birmanie, Chine, Corée du Nord, Érythrée, Iran, Pakistan, Tadjikistan et Turkménistan. Le retrait de la mission de paix conjointe de l'ONU et de l'Union africaine au Darfour, MINUAD, envisagé sur 6 mois, alors que Khartoum veut le voir achevé au 31 décembre, suscite des divisions au Conseil de sécurité des Nations Unies, étalé aujourd'hui lors d'une visioconférence sur le Soudan.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président élu des États-Unis, Joe Biden, a choisi l'ancien général Lloyd Austin pour diriger le ministère de la Défense. Il deviendrait, s'il était confirmé par le Sénat, le premier chef afro-américain du Pentagone. Les précisions de Bagassi Koura.
Le général de l'armée de terre à la retraite, âgé de 67 ans, a combattu en Irak et en Afghanistan avant de devenir le premier homme de couleur à diriger le CENTCOM, le commandement central de l'armée américaine. Joe Biden connaît l'ex-général Austin pour avoir travaillé avec lui lorsque, en tant que vice-président, il avait supervisé la mise en œuvre de la décision de Barack Obama de retirer 50 000 soldats américains d'Irak en 2011. S'il est approuvé par le Sénat, l'ex-général sera le premier Africain-Américain à diriger la première armée du monde au sein de laquelle la communauté noire est très représentée. L'ancien commandant des forces américaines au Moyen-Orient semble ainsi avoir été préféré à Michelle Flournoy, qui aurait pu être la première femme à diriger le Pentagone. Lloyd Austin avait succédé à la tête du CENTCOM à Jim Mattis, qui a été le ministre de la Défense de Donald Trump de 2017 à 2019.
L'armée américaine en Afghanistan a rejeté aujourd'hui ce qu'elle a décrit comme une étude partielle sur la hausse du nombre des victimes civiles causées par les frappes aériennes de la coalition entre 2016 et 2019. Le coronavirus a fait plus de 1 540 000 morts dans le monde. Quelque 67,5 millions de cas d'infection ont été enregistrés. Le point sur les dernières évolutions de la pandémie de COVID-19 avec Nathalie Barge.
Les États-Unis restent le pays le plus touché avec plus de 280 000 décès pour environ 14 950 000 cas recensés. Plus de 20 millions de personnes dans le sud de la Californie sont soumises à un confinement. Sur la côte est, New York a rouvert les écoles élémentaires publiques lundi, mais les autorités pourraient décider d'une nouvelle fermeture des restaurants. Les experts de l'Agence américaine des médicaments estiment que le vaccin Pfizer-BioNTech ne présente pas de risque de sécurité, empêchant son autorisation qui pourrait intervenir d'ici la fin de la semaine. Le Royaume-Uni, pays le plus endeuillé d'Europe avec près de 61 500 morts, a commencé à vacciner les résidents et le personnel des maisons de retraite. La majorité de la population devra toutefois attendre 2021. Car la priorité sera donnée ensuite au personnel soignant et aux plus de 80 ans. 51 vaccins sont testés sur des humains, 13 étant en dernière phase d'essai, indique l'Organisation mondiale de la santé, estimant que la vaccination ne doit pas être obligatoire, sauf dans des circonstances professionnelles spécifiques.
Des experts de l'Agence américaine des médicaments FDA ont estimé dans un rapport publié aujourd'hui que le vaccin de Pfizer et BioNTech contre le Covid-19 ne présentait pas de risque de sécurité, empêchant son autorisation qui pourrait intervenir d'ici la fin de la semaine. En France, le parquet national financier a requis aujourd'hui 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, à l'encontre de l'ancien président Nicolas Sarkozy, jugé pour corruption et trafic d'influence. L'accusation a demandé les mêmes peines pour ses co-accusés, l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert, ainsi que pour Thierry Herzog, avocat historique de Monsieur Sarkozy, demandant pour ce dernier qu'elle soit assortie de 5 ans d'interdiction professionnelle. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, retrouvez Nathalie Barge pour la Minute Éco.
En République démocratique du Congo, la loi des finances de l'exercice 2021 sera examinée à partir de mercredi au Sénat en seconde lecture, après son adoption par l'Assemblée nationale le 3 décembre. Chiffré à quelque 6,9 milliards de dollars, le budget a été présenté le 14 novembre par le gouvernement. En cas de vote en des termes identiques, le texte sera transmis au président pour promulgation. En cas de divergence, une commission paritaire sera créée pour harmoniser les vues. Le Sénégal a établi un plan pour parachever la réforme sur les contrats de partenariat public-privé dans le cadre du programme d'action prioritaire ajusté et accéléré. Certains points ont été présentés aux parlementaires à l'issue d'une séance plénière lundi consacrée au vote du budget 2021. Le ministre de l'économie, Amadou Hoth, a précisé qu'en moyenne sur 100 entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 milliard de francs CFA, 26 sont contrôlées par les privés internationaux. Le produit intérieur brut de l'Afrique du Sud a rebondi de 66% au troisième trimestre 2020, après s'être effondré à 51% au cours du précédent, a annoncé ce mardi l'Agence nationale des statistiques. Ce rebond est en grande partie le résultat de l'allègement des restrictions liées au confinement dû à la pandémie de Covid-19, a estimé l'agence, précisant que la fabrication, le commerce et l'exploitation minière ont été les principaux moteurs de cette croissance.
Et sans transition, nous passons à votre page d'espoir avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous, c'est le choc de ce soir. Les meilleurs ennemis, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, ont l'occasion de se retrouver pour la première fois en Ligue des Champions depuis que CR7 a quitté le Real Madrid. Un test positif au Covid-19 avait empêché la superstar portugaise de prendre part au match aller à Turin, remporté 2-0 par les Blaugrana. En bas, le Dynamo Kiev reçoit Ferencváros pour la 3e place qualificative pour la Ligue Europa. Les Red Devils de Manchester United jouent leur place en 8e de finale à Leipzig. Un nul qualifie Man U et une défaite les envoie en Ligue Europa. Le PSG reçoit le Başakşehir Istanbul qui joue pour l'honneur. Les deux néophytes en Ligue des Champions, Krasnodar et Rennes, terminent l'aventure avec un match pour l'honneur dans ce groupe. Les Russes, 3e et reversés en Ligue Europa, vont défier le leader Chelsea, de l'énorme gardien sénégalais Edouard Mendy et de l'ailier marocain Hakim Ziyech. Les Français reçoivent, eux, Séville, à suivre aussi Zenit Saint-Pétersbourg, Borussia Dortmund et Lazio de Rome, FC Bruges. Ici aux États-Unis, les Seattle Sounders défendront leur titre en finale de la MLS face à Columbus dimanche, après avoir défait hier Minnesota United 3-2 en finale de la conférence Ouest. Un but de la tête de l'international suédois Gustav Svensson sur corner dans le temps additionnel a propulsé Seattle vers sa 4e finale de MLS en 5 saisons. La franchise de l'État de Washington en quête d'un 3e sacre rejoint ainsi le Crew de Columbus en finale. Le Crew, justement champion en 2008, disputera lui sa 3e finale de MLS dans son propre stade dans l'Ohio dimanche. Le Comité international olympique a suspendu le président biélorusse Alexandre Loukachenko de toutes les manifestations et activités du CIO y compris les Jeux Olympiques, à cause de la discrimination politique frappant les athlètes du pays. La commission exécutive du CIO a conclu que, je cite, « la direction actuelle du Comité national olympique du Bélarus, présidée par le chef de l'État, Alexandre Loukachenko, n'a pas protégé de manière appropriée les athlètes contre ces discriminations politiques. »
C'était des sports de Yakuba Ouedraogo. Écoutez le monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manelakiza, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. La RDC s'enfonce dans une crise au sommet de l'État. Le président Tshisekedi a annoncé dimanche la fin de la coalition qu'il formait avec la majorité parlementaire pro-Kabila du Front commun pour le Congo. Le chef de l'État a menacé de dissoudre la Chambre basse. Le FCC a dénoncé une violation de la Constitution. Eddy Issango a joint à Kinshasa un député membre du groupe parlementaire PPRD de Kabila et porte-parole du parti, François Nzekouye.
Le règlement de l'Assemblée nationale dispose que les plénières de l'Assemblée nationale sont convoquées par les bureaux de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, le bureau a convoqué une plénière pour 10 heures, mais de manière anarchique, les députés de l'UDPS, qui ont séquestré du reste du secrétaire général depuis samedi, l'ont obligé à convoquer une autre plénière. Cela n'a pas pu se passer et au moment où je vous parle, les députés de l'UDPS viennent de faire un coup d'État institutionnel à l'Assemblée nationale en convoquant eux-mêmes une plénière cet après-midi qui serait dirigée par les députés les plus âgés et les moins âgés sans tenir compte du quorum des sièges. Pour qu'une plénière se tienne, il faut au moins 250 députés plus une personne. Dans la salle, actuellement, il y a 50 députés et on convoque et on veut tenir une plénière de l'Assemblée nationale.
Mais il y a eu un communiqué que VOA a vu portant la signature du secrétaire général de l'Assemblée nationale convoquant la plénière après celui de la présidente qui disait que toute séance était suspendue à cause des troubles d'hier.
Le secrétaire général n'a pas compétence de convoquer une plénière à l'Assemblée nationale. La seule plénière qu'il convoque est la séance inaugurale d'ouverture d'une session parlementaire. Au début d'un mandat, il a le droit de convoquer une plénière. En dehors de ce moment, aucune disposition, ni de la Constitution, ni du règlement de l'Assemblée nationale ne lui permet de convoquer une plénière.
Ceux du camp du CASH ou de ceux qui les ont rejoints disent avoir mis des signatures sur une pétition et qu'ils seraient au nombre de plus de 250. Ils vous accusent, vous, du FCC-PPRD, d'empêcher que la séance ne soit tenue et même d'empêcher que les services ne puissent recevoir cette pétition.
C'est faux parce qu'aujourd'hui, la plénière a été convoquée par les rapporteurs de l'Assemblée nationale à 10h et vous devez en avoir une copie. Donc, le bureau est prêt que toutes les plénières se fassent conformément à la Constitution, au règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui fait office de loi particulière pour les parlementaires. Donc, nous ne sommes à aucune fois opposés, sauf que les samedis, les jours où ils sont venus déposer la pétition, ils sont arrivés à 13h30, à l'heure où l'administration était déjà fermée.
Dans tout ça, vous ne craignez pas que le président prenne une décision pour dissoudre l'Assemblée nationale?
Il le fera encore une fois en marge des lois et de la Constitution. Notre Constitution dit que le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale s'il y a un conflit persistant entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Donnez-moi un seul exemple de conflit entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Il n'en existe pas. Les conflits éventuels qu'il peut avoir lui avec le gouvernement, il confond le problème d'humeur qu'il peut avoir lui avec le président des chambres, mais cela ne constitue à rien une crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale.
François Nzekouye, député membre du groupe parlementaire PPRD de Kabila.
Mandia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, Félix Tshisekedi rompt avec le FCC de Joseph Kabila et veut une recomposition de la majorité parlementaire avec la nomination d'un nouvel informateur. Une décision qu'il a prise à l'issue des consultations politiques lancées le mois dernier. Les alliés de l'ex-président, toujours majoritaire au Parlement, disent avoir pris acte. Quelles sont les options du président Tshisekedi pour obtenir une majorité parlementaire? Quelles conséquences politiques de ce bras de fer FCC-CASH? Nous discuterons de tout cela avec nos invités ce jeudi 10 décembre 2020 à 19h temps universel sur VOA Afrique et VOA Afrique.com.
La capitale sénégalaise accueille la troisième édition du Festival international de courts-métrages du 7 au 12 décembre. Cette année, Dakar Courts-métrages a reçu 213 candidatures en provenance d'Afrique et de la diaspora. Le comité de sélection a retenu les 12 courts-métrages pour la compétition officielle qui se tient dans un contexte de deuxième vague du Covid-19. Yacouba Ouedraogo a joint Molly Khan, directeur du festival Dakar Courts-métrages.
Nous avons pensé à mettre en place une plateforme pour permettre aux festivaliers qui ne pourraient pas se déplacer ou qui sont en dehors du Sénégal de pouvoir se connecter sur dakarcourts.equino.tv et de suivre tout le festival, non seulement en live, mais aussi de pouvoir visionner le catalogue numérique du festival, c'est-à-dire tous les films en compétition qu'on va voir, nous, qui sont les professionnels limités. Quand je parle de limités, je parle que le festival, cette année, est limité. Il n'y a que des professionnels que nous avons choisis qui seront là durant tout le festival. Et ils ont subi des tests Covid avant de quitter leur pays lorsqu'ils sont arrivés au Sénégal pour qu'on soit vraiment tranquille et que la fête commence bien et termine bien.
Parlant du festival, il y a eu quand même 213 candidatures. Vous êtes parvenu à sélectionner 12 films de court-métrage. Dites-nous comment le travail s'est fait.
Effectivement, nous avons reçu plus de 213 films qui nous viennent d'Afrique, de la diaspora américaine et européenne, du monde entier en général. Et nous avons en premier lieu mis en place un comité de visionnage composé de professionnels du cinéma. Et ces gens-là avaient fusionné, ils avaient envoyé 32 films. Après, nous, en interne, nous avons mis encore une deuxième équipe pour sortir une sélection. Et nous avons sélectionné ces 12 films-là qui nous viennent du Brésil, de l'île Maurice, du Mali, du Burkina Faso, du Maroc, du Sénégal. Dans ces 12 films, on peut voir vraiment des histoires diverses, des combats de femmes, de l'immigration et des films fantastiques.
Quel est l'objectif de Dakar Court-métrage?
En Afrique, avec le numérique, les jeunes tournent des films, tout le temps des films. Et dans ces films-là, dans ces productions-là, on voit souvent des choses extraordinaires, des talents. Et qu'en général, ces films, on ne les voit pas. Nous avons décidé de mettre en place un festival de classe pour pouvoir permettre aux professionnels du cinéma, aux jeunes, de pouvoir montrer leurs films et aussi d'inviter des professionnels qui sont dans les autres pays développer, de venir en Afrique et de partager avec ceux qui sont là des expériences.
Molly Khan, directeur du festival Dakar Court-métrage, joint dans la capitale sénégalaise.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Les préparatifs sont en cours pour la prestation de serment de Joe Biden en tant que 46e président des États-Unis. Une cérémonie qui sera toute particulière à cause de l'impact de la pandémie. Steve Reddish de la VOA fait le point. Le récit est de Lionel Lunanira Gahima.
Une plateforme construite sur les marches du Capitole et un podium dressé devant la Maison Blanche, ce sont les indices familiers d'une cérémonie d'investiture tous les 4 ans d'un nouveau président des États-Unis. Un journaliste interpelle Joe Biden.
Thank you, Mr. President.
Monsieur le Président élu, beaucoup de gens se demandent à quoi va ressembler votre prestation de serment.
So am I.
Moi aussi.
Joe Biden n'est pas le seul à se demander comment la pandémie de coronavirus va affecter les festivités pour sa prestation de serment. Lara Brown, directrice de l'école de sciences politiques à l'université George Washington.
There is nothing that will inhibit.
Rien n'empêchera le président élu, Joe Biden, de prêter serment, de prononcer un discours et d'avoir quelques dignitaires autour de lui à l'extérieur, c'est-à-dire la façade ouest du Capitole.
Selon elle, la plupart des Américains suivent la cérémonie à la télévision et ne feront pas la différence une fois que le public ne sera plus dans l'objectif des caméras. Lara Brown, directrice de l'École des sciences politiques à l'Université George Washington.
Je pense qu'on pourrait voir des chaises espacées, peut-être avec de vrais billets pour accéder à l'espace et un moyen de s'assurer que les gens sont en sécurité, même s'ils sont à l'extérieur. J'imagine aussi que les masques seront obligatoires.
La Constitution des États-Unis prescrit ce qui est dit lors de la prestation des serments et quand elle a lieu. Joe Biden admet qu'il n'y aura pas des fioritures habituelles à son investiture.
Je suppose qu'il n'y aura probablement pas le gigantesque défilé inaugural sur Pennsylvania Avenue, mais je suppose que vous verrez beaucoup d'activités virtuelles dans les États, engageant encore plus de gens qu'auparavant.
Laurel Brown dit que la taille de la foule ne sera pas un problème. Selon elle, nous n'allons pas voir un grand nombre d'Américains entassés dans les rues et agiter le drapeau avec le grand défilé. Ce sera plutôt un moment solennel de substance, d'austérité et de détermination. Biden a estimé que son équipe était plus imaginative à cause du COVID-19.
D'abord et avant tout, mon objectif est de garder l'Amérique en sécurité, tout en permettant aux gens de célébrer et de voir célébrer autour d'eux.
Cependant, le président Donald Trump n'a pas encore concédé sa défaite et envisage d'organiser un événement concurrent pour lancer sa campagne présidentielle pour 2024.
C'est la fin de cette édition du Monde aujourd'hui. À la mise en onde, Lionel Lunanila Gahima et Michel Joseph. À la présentation, Eric Manila Kiza. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur votre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les 16 jours entre la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, célébrée le 25 novembre, et la Journée des droits de l'homme, célébrée le 10 décembre, sont consacrés à faire campagne dans le monde entier pour sensibiliser le public à la violence sexiste et à mobiliser les gens partout dans le monde pour apporter des changements contre la violence sexiste. La violence à l'égard des femmes transcende les frontières et les cultures. Une femme sur trois est victime de violences sexistes au cours de sa vie. Malheureusement, ces chiffres ont augmenté sous la pandémie de COVID-19, a déclaré John Barsa, administrateur adjoint par intérim de l'USAID. Les partenaires de l'USAID ont constaté une augmentation de la violence à l'égard des femmes et des filles à mesure que les confinements perturbent les moyens de subsistance et que l'accès aux vivres et aux biens abordables devient plus difficile. L'USAID reconnaît depuis longtemps l'importance de s'attaquer aux diverses formes de violence qui affectent la capacité des femmes à prospérer et à réussir. Sous l'administration Trump, l'USAID a élargi ses partenariats avec des organisations non gouvernementales, des groupes de femmes, des entreprises, du secteur privé et des institutions gouvernementales afin de mettre en œuvre des programmes efficaces visant à accroître la sensibilisation et la prévention des effets néfastes de la violence à l'égard des femmes, a déclaré l'administrateur adjoint par intérim, Barsa. Par exemple, dans le cadre de la stratégie des États-Unis sur les femmes, la paix et la sécurité, les programmes s'emploient à protéger les femmes et les filles contre la violence, l'exploitation et les abus dans les efforts de développement et d'aide humanitaire de l'agence. Depuis 2017, l'USAID a permis la participation de quelque 70 000 femmes au processus de consolidation de la paix et fournit des soins intensifs, un soutien psychologique, une aide juridique et une assistance économique à plus de 6 millions de survivantes de violences sexistes. Mais c'est une longue et difficile bataille parce que la violence sexiste est trop souvent normalisée au sein d'une société donnée. Cela résulte de l'incapacité de la communauté et du gouvernement à reconnaître et à valoriser les droits des femmes et des filles. C'est pourquoi les appels à l'action, comme les 16 jours d'activisme contre la violence sexiste, sont si importants pour la lutte contre ce type de violence. Ils mettent en lumière ce fléau, de même que les politiques et pratiques qui lui permettent d'exister. Nous avons tous un rôle à jouer pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes, atténuer ses effets néfastes sur les individus, les familles et les collectivités et assurer la promotion des droits de tous les individus, a déclaré l'administrateur adjoint par intérim Barsa. Pendant ces 16 jours et chaque jour, l'USAID est unifiée pour préserver et protéger la dignité des femmes et des filles dans le monde entier.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.